Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Sporama, votre émission hebdomadaire qui parle de sport sur la voie de l'Amérique. Élisée Rompatine au micro. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, dans ce studio, Lawal Dine Kosuro. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir et bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
On prend la direction de Columbus dans l'Ohio où se trouve Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
En direct de Kinshasa en RDC, nous avons Valdo Simbo Yamba Yamba. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Heureux de vous retrouver.
Et puis, on retrouve Amine Birouk à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Ce soir, nous allons parler des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 qui reprennent du 11 au 17 novembre avec les 3e et 4e journées. 48 matchs en une semaine pour voir certaines sélections conforter leur position et d'autres refaire leur retard. Bienvenue à tous. Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022 de football vont reprendre du 11 au 17 novembre prochain après une année d'interruption en raison de la pandémie du coronavirus. 48 matchs programmés donc en 7 jours. Amédine Sy, tout commence ce mercredi avec la réception à Thiès de la Guinée-Bissau par le Sénégal.
Tout à fait Élisée, tout commence mercredi avec la réception de la Guinée-Bissau pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Il faut dire que ce sera un match extrêmement complet. Comme vous le savez, le contexte est bien là. Les équipes n'ont plus joué depuis presque un an à cause de la pandémie. D'ailleurs, la CAF a décidé que tous les matchs se joueront à huis clos. Je pense que c'est une décision très forte de la CAF. Un an pour revenir à la rencontre, ce ne sera pas facile parce que c'est un derby. Le Sénégal qui occupe la première place du groupe I devant le Congo et la Guinée-Bissau fera tout quand même pour conserver son fauteuil de l'île. Mais ce ne sera pas facile. D'ailleurs, Aliou Cissé a convoqué 25 lions pour ce match ô combien important. Mais il y a eu déjà des forfaits puisque Diao Baldé Keita ne jouera pas cette rencontre, de même que Famara Diédou. Ils sont tous deux déclarés forfaits, mais ce ne sera pas une excuse pour Aliou Cissé et ses poulains qui devront quand même sortir le grand jeu pour pouvoir redorer leur blason terni par cette défaite face au Maroc en match amical. En tout cas, Chassé Élisée, que c'est un match difficile qui attend les Lions ce mercredi face à la Guinée-Bissau.
Le vendredi, le Maroc recevra la Centrafrique, un adversaire qu'il faut prendre au sérieux selon Vaïd Ali Lodic, sélectionneur des Lions de l'Atlas.
On a fait analyse, on a préparé pas mal de choses, informations sur l'équipe de Centrafrique, avec beaucoup de générosité, combativité, même agressivité, tout de temps qu'ils dépassent un petit peu leurs limites. Mais dans chaque match que j'ai regardé, ils n'étaient jamais ridicules, parce que dans la discussion avec certains jeunes autour de l'équipe nationale, oh, ça sera facile, ça. Il n'y a jamais gagné pendant bon ce type de match.
Amine Birouk, la double confrontation du Maroc contre la Centrafrique est capitale pour la suite.
Capitale, fondamentale, vous avez raison Élisée, puisqu'une victoire de l'équipe du Maroc à Casablanca, doublée par un autre succès à Douala, puisque le match sera délocalisé au Cameroun, pourrait rapprocher l'équipe du Maroc de la qualification. Et d'ailleurs le sélectionneur Vaïd Ali Lodzic ne s'est pas trompé d'objectif, c'est ce qu'il va définir à ses troupes dès le début du rassemblement. Et à chaque entraînement, le choix des hommes, ça impose également une victoire, puisque l'équipe nationale du Maroc n'a pas lésiné sur les moyens. Le sélectionneur a appelé les troupes les plus valables, des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens, Hakim Ziyech à Chelsea, Achraf Hakimi à l'Inter de Milan, des joueurs en Liga, des joueurs habitués aux grandes joutes européennes, aux rencontres des Ligues des Champions. Et c'est d'ailleurs avec l'objectif de prendre 6 points et de se rapprocher de la qualification que l'équipe du Maroc débarquera à Casablanca pour le premier match vendredi et puis ira à Douala pour défier une nouvelle fois la Centrafrique, un adversaire que le Maroc n'avait pas réussi à battre lors des éliminatoires de la CAN 2012 avec 2-0-0, que ce soit à Rabat ou à Bangui.
Valdo, avec 2 points, l'on attend un sursaut d'orgueil de la part des Léopards de la RDC face à l'Angola dans un groupe dominé par la Gambie et le Gabon.
Un sursaut d'orgueil, comme vous l'avez dit, Élisée, qui doit se conclure par un résultat satisfaisant d'abord les 14 novembre au Stade des Martyrs et ensuite les 17 à Luanda. Les Léopards de la RDC, dos au mur, n'ont qu'une option, améliorer leur classement avant les 2 dernières journées au risque de connaître un coup d'arrêt avec cette bonne série de participations aux différentes éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, cette sélection de la RDC ne donne aucune assurance, pas de victoire en 6 matchs joués. Matchs amicaux et éliminatoires à CAN confondus, 2 défaites contre 4 matchs nuls, dont 2 pour le compte des éliminatoires. La double confrontation contre l'Angola est donc l'occasion pour la RDC de baliser son chemin avant les 2 dernières journées. 2 matchs qui s'annoncent très disputés puisque l'adversaire en face compte 0 points et jouera son va-tout. Ça s'annonce pas bien côté Léopard. L'entraîneur congolais est déjà dans l'obligation de revoir sa liste et de convoquer puisque sur sa liste de départ, des absences de taille sont annoncées pour cause de Covid-19 d'une part et problèmes administratifs de l'autre.
Lawal, dans le groupe L, dominé par le Nigeria, le Bénin fera face au Lesotho le samedi. Michel Dussueux, sélectionneur des écureuils, parle du match.
Le plus grand danger, c'est de penser que ça va être facile. Aujourd'hui, le Lesotho n'est plus une équipe qui prend des cartons comme il y a 5 ou 10 ans. C'est une équipe qui, si vous regardez son parcours lors des derniers éliminatoires pour la CAN en Égypte, et qui n'est pas passé si loin que ça de la qualification. Moi, je m'attends à des matchs difficiles, justement, qu'il faudra être à 100%, il faudra être hyper concentré sur ces 2 matchs, si on veut atteindre notre objectif de prendre le plus de points possible.
Les écureuils vont essayer d'engranger le maximum de points face aux Lesotho sans Stéphane Sessayon.
Oui, naturellement, Stéphane Sessayon, le sélectionneur, en a parlé au cours de sa conférence de presse. Il n'a pas de club et la règle aujourd'hui avec les écureuils du Bénin, c'est que quand quelqu'un n'a pas un club, il ne peut pas jouer. Mais on a déjà eu à jouer sans Stéphane Sessayon face au Gabon en amical, c'est vrai voilà. Que les matchs amicaux ne sont pas les mêmes que les matchs officiels.
Mais le Gabon est un adversaire au-dessus du
Bénin et du Lesotho, voilà. Du Bénin d'abord et du Lesotho. Et si le Bénin a réussi à battre le Gabon, même si c'est en amical 2-0 sans Aubameyang, il faut dire que les Béninois ont intérêt à bien se comporter face au Lesotho afin d'avoir au moins les 6 points et espérer que le Nigeria fasse un faux pas face à son adversaire du jour.
À côté, le Burkina et le Mali, co-leaders de leur groupe, sont attendus face respectivement au Malawi et à la Namibie.
Namibie, Malawi, c'est des équipes qui sont un peu moins en vue que le Burkina et le Mali. Et les leaders doivent véritablement chercher à confirmer. Et c'est des matchs qui seront très compliqués pour les Namibiens et les Malawites. On espère que les Burkinabés et les Maliens, surtout avec le gamin de 19 ans qui a fait un quintuplé avec l'Ayas dernièrement en championnat, 19 ans,
Eric Traoré,
les Burkinabés vont montrer toute la flamme qu'on leur connaît parce que ce n'est plus une petite équipe sur le continent. Les Maliens également vont forcément chercher à rester leader. Et ça s'annonce compliqué pour les Malawites et puis les Namibiens.
Amine, l'Égypte, pourtant favorite de son groupe, se retrouve en difficulté contrairement à l'Algérie et la Tunisie.
L'Égypte doit forcément gagner ses 2 rencontres. Elle a mal débuté ses éliminatoires et l'entraîneur Hossam El Bedri est conscient de l'importance de ces 2 rencontres que les pharaons devront disputer et qu'ils devront gagner. On parle de champion d'Afrique à 3 reprises de manière consécutive lors de début de ce siècle, 2006, 2008 et 2010. Une équipe d'Égypte qui possède les meilleurs éléments du Ali et du Zamalek qui vont disputer la prochaine finale de Ligue des Champions et qui ont forcément envie de rattraper le coup en équipe nationale. Aujourd'hui, l'Égypte est en difficulté et l'Égypte se doit de gagner. Ce qui est certain, c'est qu'aussi l'Algérie se trouve en position très confortable. Elle aura une double confrontation avec le Zimbabwe, forcément à la portée des Fenech, champions d'Afrique. Et puis les Tunisiens sont également dans une voie qui les mène vers la qualification. Je suppose que 6 points pour l'Algérie et la Tunisie seraient synonymes de qualification pour la prochaine CAN.
À Médine, la Côte d'Ivoire, dans un contexte particulier, doit jouer gros contre Madagascar. D'ailleurs, les Malgaches, compte tenu de la tension post-électorale, ont demandé un report ou une délocalisation.
Élisée, je pense que ce match Côte d'Ivoire-Madagascar devait être quand même reprogrammé à une date ultérieure, car le contexte est très très difficile, la tension est encore vive au pays des éléphants. Je pense que les responsables malgaches ont bien fait de demander un report ou une délocalisation de ce match, car rien n'est sûr, hein. Il ne faut pas prendre de risques. En tout cas, je pense que les responsables de la CAF vont prendre les devants, car il sera extrêmement difficile vu le contexte actuel, surtout avec la tension qui sévit dans ce pays, d'organiser un match entre ces deux pays. En tout cas, la balle est dans le camp des responsables de la CAF Élysée.
Maintenant, Valdo, ce qui est inquiétant pour l'heure, c'est que le Covid-19 ne perturbe toutefois pas à nouveau cette troisième et quatrième journée.
Il ne faut jamais faire sans dans les prévisions. D'ailleurs, la CAF a publié dans un communiqué les guides sanitaires pour cette troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN. Question de se soumettre au protocole et éviter les reports des matchs comme ce fut le cas en demi-finale. Retour de la Ligue des champions de la CAF entre Zamalek et Raja. Les huis clos paraît comme la première des solutions pour la sécurité des acteurs en RDC. Et par exemple, toutes les dispositions sont prises pour faire passer aux officiels et joueurs les tests de Covid-19 avant les matchs. Question de s'assurer de l'état de santé de tous et de chacun, car nous sommes tous en train de suivre que le taux de contamination à travers le monde a de nouveau pris l'ascenseur. Il est donc plus qu'important de rester très vigilant, mais à ce sujet, certains clubs auront du mal à libérer leurs joueurs pour ne pas les exposer à une possibilité de contamination en sélection nationale. Donc c'est ça le vrai problème.
En attendant le démarrage de cette journée éliminatoire, l'Afrique aura les yeux rivés ce lundi à Zurich. En effet, la chambre de jugement de la FIFA devrait rendre son verdict concernant cette affaire de corruption qui éclabousse la présidence de la CAF. Lawal, à quoi doit-on s'attendre de la commission? Que la candidature d'Ahmad Ahmad soit interdite pour cause de violation du code d'éthique?
L'idéal aurait été que la candidature de Ahmad Ahmad soit carrément invalidée, qu'il soit inéligible. Mais on attend, c'est la commission qui doit juger de l'opportunité ou non de le bloquer. Maintenant, au demeurant, si déjà on a fait jurisprudence au niveau de l'UEFA, au niveau de la FIFA elle-même, ce n'est pas au niveau de la CAF que la commission va rester débonnaire. Il faut que si Ahmad Ahmad est coupable de quoi que ce soit et que c'est vérifié, qu'on puisse lui interdire donc d'aller à cette élection. Cela compromettrait gravement, s'il allait à ces élections, gravement la crédibilité de l'instance fêtière du football africain.
Et selon ce qu'on est en train d'apprendre, visiblement, ça s'annonce compliqué pour Ahmad Ahmad, puisque la Côte d'Ivoire vient d'avoir un candidat, en l'occurrence Chaka Nouma, qui a eu le parrainage de la fédération pour être candidat. L'Afrique du Sud aussi, par l'intermédiaire du président des Mamelodi Sundowns, Patrice Motsepe, le milliardaire. Donc les gens s'annoncent maintenant pour être candidat.
Oui, Élisée, il aura fallu que ce scandale éclabousse Ahmad Ahmad pour faire ressurgir les appétits voraces des uns et des autres. Sinon, au départ, on n'avait pas imaginé Jacques Anouma sur la sellette. On n'avait pas imaginé NTP également sur la sellette. Mais aujourd'hui, que ça se complique pour Ahmad Ahmad qui est dans la tourmente, les appétits vont être encore plus grands. Et c'est peut-être pas fini. Les candidatures vont être déposées bientôt et on verra bien clair dans cette affaire. Et au-delà de tout ce qu'on peut dire, il faudra que la commission fasse son travail de façon démocratique afin que la lumière puisse être faite sur cette affaire-là.
Amine, le rouleau compresseur qui allait tout broyer semble aujourd'hui grippé. Le camp Ahmad Ahmad retient son souffle.
Et c'est toute l'Afrique du football qui retient son souffle. Parce que Ahmed habilité à se présenter par la FIFA serait un véritable rouleau compresseur, puisqu'il aurait l'adhésion de la plupart des fédérations nationales africaines. Ahmed empêché de se présenter et le jeu est ouvert avec de multiples candidats en embuscade, et notamment le Tunisien Bouchmaoui, l'Égyptien Abourida, Constant Omari ou même Ahmed Yahya le Mauritanien, sans oublier Pinnick le Nigérian. Donc forcément, tout le monde attend le verdict de la chambre de la FIFA, habilitée à juger ce type d'affaires. L'affaire Technical Steel a fait beaucoup de mal au football africain. Elle passe pour une broutille pour le président de la CAF, qui a toujours défendu son innocence et sa bonne foi. Mais aujourd'hui, c'est un dommage collatéral, un boulet que traîne la Confédération africaine de football.
Valdo, le rêve de Ahmad Ahmad serait-il en voie de devenir un cauchemar?
Élisée, le rêve d'Ahmad Ahmad deviendrait cauchemar que si l'homme est inculpé après les verdicts de la Chambre de jugement de la Fédération internationale de football association, ce qui est une possibilité qui certes va tout anéantir selon ses plans établis pour lui accorder un nouveau mandat à la tête de la Confédération africaine de football. Conséquence, il faudra également que d'autres candidats se prononcent pour prétendre diriger la CAF. Au cas où ces verdicts seraient en sa faveur, Ahmad Ahmad sera donc bien parti pour s'asseoir confortablement à la tête de la CAF pour un nouveau mandat. Mais est-il que rien n'est acquis pour le président sortant de la CAF quand on sait qu'en pareille circonstance, les mots corruption pourraient lui coûter sa candidature et salir à la fois son image? Il faudra-t-il encore qu'il soit le seul dans cette affaire?
Ahmedine, peut-on espérer un jour ne plus entendre ce genre de choses des dirigeants du sport?
Élisée, pour répondre à votre question, je n'espère pas un jour ne plus entendre ces genres de choses des dirigeants du sport, car le mal est profond. Les scandales sont devenus monnaie courante au niveau du sport. Le sport business a pris le pas sur le sport tout court. Donc, on va assister encore à des scandales comme ça, à des trucs de corruption qui éclaboussent tout le temps les responsables du football, que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau de l'Europe, c'est la même chose. Le foot business a pris le pas sur tout. En tout cas, c'est vraiment déplorable, mais espérons que lundi à jeudi, la chambre de jugement va rendre un verdict qui va quand même qui va arranger tout le monde, car c'est vraiment dommage de voir le président, le patron du football africain mêlé à ce genre de trucs. Élisée.
On revient vers vous, Amine. Selon les proches d'Ahmad, 46 fédérations lui ont donné une lettre de parrainage pour sa candidature. Mais jusqu'à présent, aucune fédération n'a confirmé cette info. Pourquoi ce soutien doit rester anonyme et entouré de secrets s'il est franc, sincère et déterminé?
Je suppose qu'il y a une part de politique et surtout d'attentisme. De politique parce que on ne sait pas dans quelle direction le vent va tourner. Il y a des fédérations qui sont certainement derrière Ahmed Ahmed, qui l'ont soutenu à bras-le-corps pendant les 4 années de son mandat et qui ne manqueront pas de se déterminer dès le jugement du 9 novembre s'il est en sa faveur. Et puis il y a un certain attentisme dans la mesure où on ne sait pas dans quelle direction la FIFA va se prononcer. Donc autant laisser ses cartes au frais et autant laisser les messages politiques ou les messages de soutien dans un endroit bien caché. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football a besoin de lisibilité et les fédérations nationales en Afrique, peut-être au nombre de 46, ont besoin de se rassurer en attendant peut-être, si Ahmed est empêché de se présenter, d'avoir un consensus autour d'un candidat. Je suppose qu'après, il y aura certainement une lutte entre francophones et anglophones à propos du candidat le plus approprié pour cette période, si jamais Ahmed est empêché de se présenter.
Lawal, normalement, la publication de cette liste devrait amener les uns et les autres à assumer leur soutien.
Oui, Élisée, et il faut dire que Ahmad Ahmad est dans la tourmente et aucune fédération ne va s'aventurer à dire tout de suite qu'elle apporte son parrainage à quelqu'un qui est dans cette position-là, dans cette posture, tant que cette affaire de corruption n'est pas complètement élucidé, on ne peut pas se permettre d'agir ainsi. Autre aspect de la question, nous sommes en train de parler élection. Et quand on parle d'élection, c'est le haut lieu de la politique, il faut le dire. Donc, on est dans un attentisme qui ne dit pas son nom pour certainement faire monter les enchères en son temps. Si Ahmad Ahmad était, par exemple, blanchi, les fédérations qui se sont tues, qui n'ont pas officialisé leur soutien, vont monter les enchères. Et ça permettrait également à d'autres personnes ce silence-là. On a déjà annoncé, Jacques Anouma a déjà annoncé le milliardaire de
Patrice
Montchepé. Ça permettra à d'autres appétits de se dévoiler. Donc, attendons de voir ce qui va se passer. Mais il faut être prudent. Rester prudent, c'est la prudence qui fait qu'aujourd'hui, personne ne veut officiellement dire qu'il soutient quelqu'un qui est éclaboussé par une affaire de corruption. Aucune fédération n'est assez folle pour le dire comme ça aujourd'hui. Il faudrait que les gens attendent et que tout soit carrément clair, bien élucidé avant qu'on commence par afficher sa posture par rapport à Ahmad Ahmad.
Le 21 mars 2021 s'annonce donc palpitant. Vous écoutez Sporama, votre émission qui parle de sport, tous les lundis sur VO Afrique à partir de 19h, temps universel. On prend la direction du Togo pour dire que le tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans dans la zone UFOA-B n'aura pas lieu du 18 novembre au 2 décembre 2020 comme prévu. La Fédération Togo togolaise de football a notifié à travers un communiqué le report de la compétition à une date ultérieure. Laval, c'est une décision du gouvernement qui fait suite à la recrudescence des cas positifs au coronavirus que connaît le Togo ces derniers jours.
Oui, c'est bien triste pour cette compétition. On aurait aimé avoir la chance de la jouer puisque le ballon n'a plus tourné sur les différents stades depuis longtemps. Il fallait ça, mais le coronavirus a dicté sa loi depuis longtemps à toutes les fédérations et les Togolais ont eu l'intelligence de reporter ou de suspendre d'abord cette compétition, espérant que ça puisse se calmer, s'améliorer afin qu'on revienne à cette compétition.
Et le Bénin pourrait toutefois reprendre ses qualifications au cas où le Togo se désisterait définitivement.
Oui, Élisée, le Bénin pourrait le faire, mais le Togo et le Bénin, c'est comme on dit, même paix, même mais, c'est les mêmes situations qu'on vit. Et la recrudescence des nouveaux cas de coronavirus au Bénin dernièrement n'est pas de nature à offrir cette opportunité.
Le Bénin organise pour les moins de 17 ans.
Il vaut mieux rester prudent et véritablement faire les choses de sorte à ne pas exposer les joueurs, les staffs techniques et autres acteurs du foot pour le moment.
À Médine, c'est le Sénégal qui organise les qualifications de la zone UEFA-A.
Tout à fait, Élisée. Le Sénégal va organiser le tournoi de l'UEFA qualificatif à la CAN U20. D'ailleurs, le tirage au sort a été effectué. Le Sénégal, pays hôte, est logé dans le groupe A en compagnie de la Sierra Leone et de la Gambie. Dans le groupe B, on retrouve le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et la Mauritanie. Il faut dire que ce tournoi est extrêmement important puisqu'il est qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations réservée aux joueurs de moins de 20 ans. Et pour ce tournoi, un seul ticket et qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations et le Sénégal pays hôte fera tout quand même pour décrocher ce ticket qualificatif, mais ce sera pas facile car il y a des adversaires de taille comme la Gambie mais aussi comme la Guinée-Conakry. Donc les poulains de Youssou Dabo devront sortir le grand jeu pour pouvoir quand même décrocher l'unique ticket qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations. Élisée.
Vous êtes toujours câblé sur VOA Afrique. La finale de la Ligue des Champions CAF sera 100% égyptienne. Après la qualification d'Al Ahly face au Wydad, finaliste malheureux de la dernière édition, le Zamalek a chippé sa place pour l'ultime rendez-vous contre le Raja. Pour la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions CAF, la finale opposera deux clubs d'un même pays, toujours dans les compétitions africaines. Bonne nouvelle pour le Bénin. Lawal, ESAE, à l'issue du tirage au sort de la nouvelle saison 2020-2021 dans la journée de ce lundi, est exempté du tout préliminaire. En attendant de revenir lundi prochain sur le tableau complet de ce tirage, on voit bien que le travail paie.
Oui, le travail que ESAE a fourni, sa prestation en phase de groupe, même si elle est minimale avec un seul point au compteur, ESAE a quand même réussi pour la première fois dans l'histoire de ce club universitaire à passer le tour préliminaire et à s'inscrire dans la phase de groupe. C'est ça qui lui a valu aujourd'hui cette récompense-là. Et on espère que l'autre club béninois engagé dans cette compétition, notamment les Buffles, pourront faire pareil pour offrir des opportunités au club béninois.
Les deux clubs multiplient d'ailleurs les rencontres amicales. ESAE vient de jouer même hier un match amical contre la sélection béninoise U20, match perdu. Les Buffles aussi ont livré un match amical contre les Requins de l'Atlantique, match perdu 1-0. Ça montre combien de fois les deux équipes sont conscientes de l'enjeu.
Oui, elles sont conscientes de l'enjeu, mais les prestations qui nous sont offertes ne sont pas encore de nature à nous rassurer. Des matchs amicaux où on a démarré les entraînements bien avant et qu'on ait fait des matchs avec, par exemple, les Requins de l'Atlantique et qu'on soit abattu, alors que les Requins n'ont certainement pas eu les mêmes opportunités de faire les entraînements, de se préparer convenablement pour cette rencontre, les moins de 20 ans également. Bon, on espère qu'avec le temps, la machine va mieux prendre afin que ces différents clubs puissent faire le bonheur des Béninois.
Comme vous l'avez dit, les Buffles ont bien intérêt à améliorer leurs prestations en phase préliminaire cette saison pour offrir au Bénin la chance d'avoir 4 représentants dans les compétitions des clubs de la CAF lors des prochaines saisons. Sporama, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. Merci aussi à celle qui l'a réalisé. Et surtout à vous qui l'avez suivi sur le continent africain. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Au revoir.